Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité. 33 9 693 693 70.
Anne Campner.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Dans une demi-heure, nous lancerons le débat sur la restructuration des villes. Faut-il évacuer les zones à risque pour éviter des drames comme celui qui s'est produit lundi en Sierra Leone? Une coulée de boue a détruit quasiment tout un quartier de la capitale, plus de 300 personnes ont été tuées. Peut-on mieux prévenir ce genre d'événement? Faut-il accepter les déguerpissements pour reconstruire ailleurs et de manière plus sûre? Toute l'équipe d'Appel sur l'actualité attend vos messages. Mais avant cela, ce sont vos questions à la rédaction. On accueille tout de suite Norbert. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Anne.
Vous souhaitiez revenir sur les violences de Charlottesville aux États-Unis?
Exactement Anne. J'ai appris sur les ondes de la radio mondiale un affrontement a eu lieu à Charlottesville aux États-Unis entre des manifestants d'extrême droite, dits des suprémacistes, et des antiracistes, faisant un mort et plusieurs blessés. Après, un manifestant blanc d'extrême droite est foncé avec sa voiture sur la foule adverse. Anne, à ce propos, je voudrais savoir quelle est la cause de cet affrontement, c'est-à-dire pourquoi cette manifestation de militants d'extrême droite à cet endroit des États-Unis, à Charlottesville.
Alors, pour vous répondre, nous sommes en ligne avec le spécialiste des États-Unis, Corentin Célin. Bonjour.
Bonjour, Anne.
Samedi dernier, donc, l'extrême droite américaine manifestait à Charlottesville, en Virginie. La jeune femme qui a été tuée était, elle, une contre-manifestante qui était venue pour dénoncer ce rassemblement. Et elle a été percutée par l'un des suprémacistes blancs qui manifestait. Corentin Célin, pourquoi ce mouvement de la droite alternative, comme on l'appelle aux États-Unis, avait-il choisi Charlottesville?
En fait, le choix de Charlottesville tenait à la présence d'une statue d'un général sudiste de la guerre de sécession, statue qui était sur le point d'être enlevée, d'être retirée, car elle représente évidemment une offense pour tous les Afro-Américains habitants, en particulier Charlottesville. Et l'extrême droite américaine avait décidé de se compter, de se rassembler avec une manifestation unitaire pour contester l'enlèvement de cette statue symbolique.
Alors Norbert, est-ce que vous aviez une autre question?
Oui. Suite à ces manifestations et surtout à ce décès, Donald Trump a mis beaucoup de temps à condamner explicitement les actes des militants d'extrême droite. Comment est-ce qu'on peut expliquer cet état de choses?
Corentin Célin, notre auditeur Norbert donc s'interroge sur ce délai qu'a pris le président américain pour dénoncer les violences commises par l'extrême droite. Dans un premier temps, Donald Trump avait d'abord parlé de violences venant de toutes les parties. C'est seulement après avoir provoqué un tollé, y compris dans son propre camp, qu'il a été plus ferme. Et d'ailleurs, hier soir, il a répété qu'en fait, il y avait des torts des deux côtés. Comment on peut expliquer la neutralité, en quelque sorte, ou la fausse neutralité de ces déclarations?
On peut l'expliquer très simplement, surtout après ce nouvel écart que vous signaliez hier soir. En fait, Donald Trump, très clairement, ne veut pas fâcher une partie de sa base électorale qui est sensible aux thèses de l'extrême droite américaine, aux thèses identitaires et nationalistes blanches de l'extrême droite américaine. Et si, dans un premier temps, il avait, entre samedi et lundi, finalement, consenti à condamner les suprémacistes et le Ku Klux Klan, hier soir, harcelé de questions par la presse, il a en quelque sorte, on l'a vu, craquer, a fini par livrer le fond de sa pensée, et le fond de sa pensée, c'est qu'il considère, je le cite, qu'il y a parmi l'extrême droite blanche des gens très très bien, hein, je cite le président des États-Unis, et donc là on voit bien que le président des États-Unis, Donald Trump, n'a pas vraiment condamné l'extrême droite américaine. Il semble dresser un trait entre les suprémacistes et le Ku Klux Klan, qui eux seraient condamnables, et une extrême droite blanche plus générale, plus identitaire, dans laquelle il y aurait donc des gens respectables.
Merci beaucoup, Corentin Célin, d'avoir répondu aux questions de Norbert. Je précise que vous avez écrit un livre, Amérique du Nord, entre intégration et fragmentation, qui est paru aux éditions Ellipse. N'hésitez pas à nous appeler, vous aussi, si vous souhaitez décrypter l'actualité. 33 9 693 693 70. Bonjour Didier.
Oui, bonjour Anne.
Vous nous téléphonez de Kampala et vous avez des questions sur l'Iran.
Ok, bonjour encore Anne et bonjour à tous les auditeurs de la RFI. L'Iran menace de quitter les accords sur son projet nucléaire qu'elle a signé dernièrement suite aux nouvelles sanctions américaines. J'aimerais savoir quels seront les impacts ou bien quels sont les impacts de ces sanctions, de ces nouvelles sanctions sur l'économie iranienne. Et ma deuxième question serait de savoir quelles seront les conséquences si l'Iran parvenait à quitter ces accords. Et enfin, j'aimerais savoir quelle est la position des autres partenaires qui ont accompagné ces accords suite à ces nouvelles sanctions, suite à la position de l'Iran.
Bernard Ourcade est en ligne avec nous pour vous répondre. Bonjour. Vous êtes géographe, directeur de recherche émérite au CNRS et vous avez dirigé l'Institut français de recherche en Iran. Vous connaissez donc très bien le pays. Quelles peuvent être les conséquences de ces nouvelles sanctions américaines ?
Les conséquences seront minimes parce que les États-Unis, de fait, ne respectent pas l'esprit des accords du 14 juillet 2015 sur le nucléaire iranien signés par toutes les grandes puissances du monde en maintenant des sanctions, non pas sur le nucléaire au sens strict du terme, mais sur le terrorisme, en particulier par le fait que l'Iran soutient le Hezbollah au Liban. Se souvenir que le Hezbollah est reconnu par la France comme une organisation de libération nationale, qui est majoritaire au gouvernement libanais officiel aujourd'hui, et donc la France, par exemple, n'a pas du tout la même analyse concernant le Hezbollah que les États-Unis. Et donc ces sanctions sur le terrorisme, entre guillemets, négligeant que l'Iran n'a aucune participation dans les attentats qui sont passés en France, par exemple, ou à sanction également contre la politique balistique de l'Iran, puisque l'Iran a un programme balistique assez important depuis déjà plusieurs années, et on dit que ces fusées pourront servir à transporter une bombe atomique, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, et donc les États-Unis sont les seuls à maintenir...
Bernard Ourcade, on vous entend un petit peu moins bien. J'espère que la ligne va se rétablir. Notre auditeur Didier le soulignait, l'Iran n'a pas tardé à réagir. Alors le président a quand même souligné que l'Iran préférerait ne pas quitter l'accord nucléaire, mais que si les États-Unis voulaient revenir à ces méthodes, eh bien dans un délai très très court, il reviendrait à la situation d'avant l'accord. Que se passera-t-il si l'Iran met cette menace à exécution et se retire effectivement du texte conclu en 2015 ?
Il n'y a pas le feu. L'Iran, aujourd'hui, a une politique déclarative importante. Tant de la part de Donald Trump, qui est habitué aux déclarations, les Iraniens aussi sont très habitués aux déclarations intempestives. Et donc disent aux Américains, nous n'avons pas peur de vous, si vous partez, ben nous aussi nous partons, et vous verrez les résultats. Et c'est vous qui perdrez dans la bataille. Autrement dit, c'est un discours qui est en place, parce que l'Iran a tout à fait intérêt à garder l'accord sur le nucléaire. En effet, la renaissance de l'Iran, le fait que l'Iran revient sur la scène internationale, sur le plan politique, on le voit en Syrie ou en Irak, sur le plan économique surtout, est irréversible. Et donc si l'Iran sortait du nucléaire, ce serait en Iran une catastrophe économique et politique, et les Iraniens ne sont pas fous, ils sont réalistes, et donc jamais, à mon sens, l'Iran ne se retirera cela. Cela dit, d'accord sur le nucléaire, cela dit, ils veulent montrer que les États-Unis, eux, ne sont pas sérieux, alors que les Iraniens, mais si on cherche les Iraniens, ils seront capables de répondre. C'est aussi une question de politique intérieure en Iran. Les radicaux opposés à l'accord sur le nucléaire, ils existent en Iran, veulent montrer que l'Iran reste toujours un pays très opposé aux États-Unis.
Alors vous parliez des États-Unis. Cet accord sur le programme nucléaire iranien avait été signé aussi par d'autres, avec d'autres pays, la Russie, la Chine, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Que pensent ces pays de cette nouvelle donne, en quelque sorte, de ce nouveau rapport entre Téhéran et Washington ?
Mais je crois que de la part de Téhéran, c'est un appel justement aux autres signataires. Il faut bien voir que l'accord du 14 juillet 2015 a été signé par toutes les grandes puissances du monde face au petit Iran. Et donc c'est une victoire diplomatique considérable pour l'Iran, historique. Et donc les Iraniens disent aujourd'hui aux États-Unis, écoutez, vous n'êtes pas le seul signataire, il y a 50 grandes puissances, tout le monde entier a signé, et donc ne jouez pas au plus malin. Et donc c'est largement un appel à l'Europe, et on peut penser qu'aujourd'hui justement, notamment avec les changements en Grande-Bretagne et en France, surtout et en Allemagne, les Européens vont avoir une politique internationale plus active, notamment en Syrie, qui permettra de remettre les choses en place et d'oublier cette joute verbale entre l'Iran et les États-Unis, où on se renvoie la balle comme depuis 36 ans, mais tout le monde en a assez de ces invectives.
Merci beaucoup Bernard Hourcade et merci Didier de nous avoir appelé de Kampala. Dans 20 minutes, le débat d'appel sur l'actualité. Faut-il revoir complètement la construction de certains quartiers pour éviter les chantiers sans permis, les maisons installées dans des zones inondables ou dans des zones à risque? On en parle après la mort de plus de 300 personnes en Sierra Leone, emportées par une coulée de boue qui a aussi laissé 2000 personnes sans abri. Comment faire donc pour construire de manière plus sûre? Vous êtes déjà nombreux à laisser des messages sur le répondeur de l'émission, à nous écrire aussi sur Facebook. Voilà le programme de la seconde partie de l'émission, mais pour l'heure, la rédaction répond à vos questions. Bonjour Ibrahim.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
On va parler de science avec vous.
Oui, la revue scientifique américaine Nature vient de révéler la découverte d'une nouvelle espèce de primates, surtout que cette espèce pourrait être le plus vieux ancêtre de l'homme. J'aimerais savoir, cette découverte pourrait-elle modifier les premières théories sur l'histoire de l'humanité? Comment les scientifiques ont pu déterminer qu'il s'agissait du plus vieux ancêtre de l'homme?
Alors le journaliste Antoine Roland nous a rejoint pour essayer d'éclairer un peu la situation. Bonjour Antoine.
Bonjour.
On savait que l'homme et le singe avaient un ancêtre commun et il pourrait bien s'agir de ce primate. Qu'est-ce que cette découverte peut changer aux théories de l'évolution?
Disons que c'est enfin un indice concret pour nous mener vers ce fameux ancêtre. Jusque-là, on n'avait que des hypothèses. Hein. On connaît peu, finalement, notre ancêtre. Tout simplement parce qu'on a découvert peu de fossiles. On sait qu'il a vécu lors de la période du Miocène, qui s'étend de moins 25 millions d'années à 5 millions d'années avant notre ère.
Et à cette période-là, la planète n'avait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui?
Ah non, le Sahara par exemple était une vaste et dense forêt humide, la Méditerranée était quasiment asséchée, c'était presque une mer morte, et pendant cette période du Miocène, les singes, les primates avaient colonisé quasiment tous les continents, c'était un petit peu la planète des singes avant l'heure, pour reprendre le nom du roman de Pierre Boulle, et il existait une quarantaine d'espèces différentes, la plupart disparues aujourd'hui lors de changements climatiques successifs. Et donc la question que se posent les scientifiques, c'est quel est, parmi ces espèces, notre ancêtre. Et d'où vient-il? Est-ce qu'il était en Asie? Est-ce qu'il était en Europe? Est-ce qu'il était en Afrique? Jusque-là, l'hypothèse africaine était la plus défendue, notamment parce que c'est là que l'homme, son descendant, est apparu. Mais ce n'était pas sûr. Et la découverte du Nyanzapithecus alesi, c'est le nom de cette espèce, qui a vécu aux alentours de 13 millions d'années, c'est-à-dire à la moitié de cette période du Miocène, vient conforter cette hypothèse africaine.
Mais on n'est pas certain que alesi soit bien notre ancêtre.
Plutôt qu'une certitude, disons que c'est un espoir. C'est peut-être notre ancêtre, peut-être notre grand-père, mais il peut aussi être notre grand-oncle, une espèce cousine. Mais quoi qu'il en soit, Nyanzapithecus alesi semble suffisamment proche de nous pour que les scientifiques se disent « Ah oui, c'est peut-être notre ancêtre » ou alors « Notre ancêtre vivait là, vivait près de lui en Afrique ». Et d'ailleurs, pour l'anecdote, cette nouvelle espèce est appelée après le mot « Alès », qui signifie « ancêtre » en turkana, qui est la langue parlée dans la région où le crâne a été découvert au nord du Kenya. Donc c'est là une sorte de vœu pieux qu'on fait les scientifiques en l'appelant ainsi.
Alors notre auditeur Ibrahim s'interrogeait aussi sur les raisons qui ont pu pousser les scientifiques à déterminer qu'il s'agissait bien du plus vieil ancêtre de l'homme. Comment ça s'est passé ça, Antoine?
D'abord, ils ont eu une matière première, si je puis dire, à leur disposition qui est incroyable. Il s'agit d'un crâne de la taille d'un citron à peu près, qui a été découvert il y a 3 ans par l'équipe du professeur Isaiah Nengo, qui est un professeur de l'Institut du bassin de Turkana et de l'Université américaine de Stony Brook. Donc il s'agit d'un crâne d'un nourrisson environ âgé d'un an et qui est probablement mort dans une éruption volcanique. Et surtout, ce crâne est intact. Et c'est rare, c'est même du jamais vu. D'habitude, les fossiles de cette époque ne sont que des bouts de crâne isolés. Ici, on a une vraie mine d'informations à disposition.
Et alors, comment les scientifiques ont-ils fait pour l'étudier concrètement?
Alors ça, c'est le rôle des chercheurs, notamment de l'installation européenne de rayonnement synchrotron, qui est située à Grenoble, dans le sud de la France. Alors, je ne vais pas revenir exactement sur ce que c'est les rayonnements synchrotron, mais pour résumer, ce sont des rayons X extrêmement puissants qui vont analyser l'information à l'intérieur du fossile, puisque le crâne est un fossile, c'est donc une pierre, il faut des techniques spéciales pour aller chercher les informations. Une fois qu'on les a, il faut les décrypter. Et pour ça, on va comparer les résultats à ce qu'on connaît, tout simplement. Donc, on va comparer aux êtres humains, à l'espèce humaine, mais pas seulement. Vous le rappeliez tout à l'heure, nous avons des ancêtres communs à d'autres grands singes, le bonobo, le chimpanzé, le gorille, le gibbon et l'orang-outan. Ce sont donc, en quelque sorte, nos cousins. Et c'est loin d'être anecdotique. Hein, notre ADN, par exemple, ne diffère que de 1,3% avec celui du chimpanzé. Et si l'on retrouve donc dans un fossile étudier des caractéristiques de plusieurs de ces grands singes, alors il y a des chances que notre ancêtre ait aussi ces caractéristiques. Et c'est ce qui s'est passé pour Alesi, finalement. Il avait la face plate d'un gibbon, mais plutôt l'oreille interne d'un chimpanzé, c'est-à-dire qui se déplaçait comme un chimpanzé. Et ce sont ces éléments qui ont mis les scientifiques sur la piste de notre probable ancêtre. Et maintenant, les scientifiques vont continuer, bien sûr, à travailler sur le crâne et essayer de confirmer leur présomption, de transformer l'essai en quelque sorte.
Merci beaucoup Antoine Roland d'être venu répondre aux questions d'Ibrahim. Dernière question, on accueille Gilles Arsène, bonjour.
Bonjour Anne.
Vous vouliez nous parler d'athlétisme?
Oui, j'ai quelques questions de bilan sur les mondiaux d'athlétisme de Londres 2017. En effet, je voudrais savoir par rapport à l'équipe de France et qui a joué dans bon nombre de disciplines au pied du podium. Je voudrais savoir quel est le niveau de professionnalisme de l'athlétisme en France. Est-ce que les athlètes français ont le niveau de rivaliser avec les grandes nations d'athlétisme?
Pour vous répondre, Olivier Pron du service des sports est avec nous. Bonjour Olivier.
Bonjour Anne, bonjour Arsène, bonjour le Bénin.
Alors, est-ce que les Français ont vraiment échoué lors de ces championnats du monde?
Non, pas du tout. Je suis pas sûr que Gilles Arsène et nous, on ait vu tout à fait la même équipe de France ou suivi les mêmes mondiaux. Et l'équipe de France a terminé quatrième au pied du podium, ce qui est quand même plutôt pas mal. L'équipe de France a totalisé, alors certes, est très loin des États-Unis, mais ça c'est pas une surprise. Loin du Kenya, mais le Kenya était même meilleure nation il y a 2 ans. Elle se fait coiffer la France pour la 3e place, grâce à la médaille d'or de Caster Semenya pour l'Afrique du Sud lors de la dernière journée. L'équipe de France revient avec 5 médailles. C'est une de moins qu'au jeu de Rio l'été dernier, mais à Rio il n'y avait pas eu de titre, pas de médaille d'or. Là il y en a 3 et ça change tout. 3 médailles d'or pour une équipe de France qui est arrivée brinque-ballante véritablement à Londres. Il n'y avait pas eu de grosses performances. Renaud Lavillenie, qui finalement va décrocher le bronze, n'était pas très en forme. Il y avait beaucoup de forfaits, notamment sur 110 mètres haies. Il y avait eu des blessures en début de saison pour Jimmy Vico, pour Christophe Lemaître. À l'arrivée il y a 3 belles médailles d'or. Pierre-Ambroise sur 800 mètres, personne ne l'avait vu venir. Il était l'habitué des 4e et 5e places. Que dire de Johan Diniz, plus vieux champion du monde à 39 ans, qui remporte le dernier jour le 50 km marche. La médaille d'or de Kevin Mayer sur le décathlon était en revanche un peu plus attendue. Donc 5 médailles, 3 en or, 2 en bronze. Tout va bien pour l'équipe de France et ça va aller de mieux en mieux puisque, on le sait, quand on obtient les Jeux Olympiques, ce qui est le cas de Paris pour 2024, il y a une dynamique, notamment dans ces disciplines-là qui sont l'athlétisme, la discipline reine véritablement des Jeux Olympiques avec la natation. Donc, a priori, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, tout va bien pour l'équipe de France. C'est vrai qu'il y a eu 4 quatrièmes places, mais ça arrive, c'est la médaille en chocolat.
Donc pas si mal selon vous pour l'équipe de France. Est-ce que le grand perdant de ces championnats du monde, finalement, ça ne serait pas la Jamaïque qui ne repart qu'avec une seule médaille d'or? Est-ce que c'est la fin du sprint, notamment de l'ère de gloire pour les sprinteurs jamaïcains qui étaient quand même au top toutes ces dernières années?
Depuis 10 ans, il raflait tout, mais principalement grâce à un homme, Usain Bolt. Il a choisi de s'arrêter à 31 ans. Il a peut-être fait la compétition de trop, on l'a tous vu. Il ne prend que le bronze sur 100 mètres, battu par Gatlin. Et ça, c'est une vraie catastrophe aussi pour l'athlétisme. Quand on a été dopé 2 fois, forcément, le doute est là.
C'est quand même une image extrêmement négative.
Ah oui, c'est une catastrophe pour l'athlétisme. Et la retraite de Bolt et la médaille d'or de Justin Gatlin, c'est une histoire de cycle. Ils ont eu beaucoup de grands sprinteurs. Ça va moins bien, même chez les femmes, où Helen Thompson avait remporté l'or au JO sur 100 et 200 mètres. Elle ne fait que 5e là sur 100 mètres. Ils sont loin, effectivement, les Jamaïcains. Seulement 16e, 4 médailles, vous l'avez dit. Une en or sur le 110 mètres haies, 3 en bronze. Je vous l'ai dit, c'est une question de cycle. La retraite de Bolt, qui a glané 19 médailles sur les 10 dernières années, 11 aux Jeux et 8 dans les championnats du monde, bah finalement ça finit par se tarir et c'est un petit peu compliqué. J'ai interverti, c'est 11 aux Mondiaux et 8 aux JO pour Bolt, mais voilà, Asafa Poel a pris sa retraite. Il y a comme ça, ça va revenir. Il faut avoir envie, c'est ce que disait Bolt. Il y a des jeunes, il faut qu'ils prennent leur chance.
Merci beaucoup Olivier Pron d'être venu répondre aux questions de Gilles Arsène.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Monnaie.
Bonjour.